Les informations, Mimi Ngumba Mulongo. Le gouvernement congolais vient de dépêcher le ministre de la Santé, Émile Bongeli, à Matadi. C'est dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique qui touche la province angolaise de Ouidj, frontalière à la RDC. Plus de 5700 miliciens ont déjà déposé les armes en Ituri à ce jour. Les processus de désarmement prennent de la vitesse à 4 jours de l'expiration de l'ultimatum de la MONUC sur les désarmements de miliciens de ce district. Au Katanga, libération ce week-end à Moba d'un policier et deux militaires FRDC incarcérés il y a 3 jours. Les commandants FRDC sur place accusent les Maïmaï d'être auteurs de cette détention. À tous et à toutes, bonjour. Arrivé tout à l'heure à Matadi, du ministre congolais de la Santé, Émile Bongeli, a été dépêché par les gouvernements congolais afin de renforcer les cordons sanitaires le long de la frontière commune Bakongo-Ouidj dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique virale qui sévit dans cette province angolaise. Voyons cela avec Eugène Kabambi.
Il faut dire qu'à Ouidj, la province angolaise très touchée et frontalière du Bas-Congo, on dénombre désormais plus de 121 morts sur les 132 déclarés. 3 autres cas ont été enregistrés dans la province angolaise de Cabinda, proche de Bas-Congo, selon des sources sanitaires. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin ni de traitement contre cette fièvre de Marbourg. Hier dimanche, le gouverneur de la province du Bas-Congo a tenu une réunion marathon en sa résidence avec les autorités sanitaires provinciales et celles des services spécialisés de l'État pour veiller au grain et surtout à la frontière commune. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre des comités de crise qu'il préside lui-même. Le mot d'ordre reste le même, limiter les mouvements des personnes aux frontières et contrôler rigoureusement tous les points d'entrée et de sortie. Et puis le médecin inspecteur provincial que nous avons contacté ce matin a démenti l'existence à Matadi des cas suspects liés à la fièvre des Marbourg. La semaine dernière, 2 enfants dont les parents habitent Noki, à 2 km au sud de Matadi et en territoire angolais, sont décédés quelques heures après leur admission dans un hôpital de Matadi. Ensuite, un cambiste de Matadi était aussi décédé dans les mêmes conditions à l'hôpital général de Kinkanda, ce qui avait du coup alimenté des folles rumeurs dans la ville où désormais les gens se saluent de moins en moins par la main et évitent de se donner l'accolade habituelle. Mais pour Daniel Mwanda Kiangia, le médecin inspecteur provincial de Bas-Congo, ces cas de décès ne sont nullement liés à la fièvre de Marbourg. Matadi, Eugène Kabambi, Radio Kati.
Et puis dans les secteurs de Beni-Boutembo, Nord Kivu, les veuves et orphelins apprennent à revendiquer leurs droits et à se prendre en charge. Cela grâce à l'apprentissage de métiers. Néanmoins, les difficultés d'obtenir le matériel de travail demeurent énormes. Des précisions, Étienne Mouindo.
Pour les veuves de Beni-Boutembo, l'autoprise à charge passe par le travail. Le centre d'encadrement des veuves et orphelins de Beni, le CEFOSA, qui regroupe plus de 9000 membres, vient d'ouvrir des ateliers de coupe-couture, d'artisanat et de menuiserie. Le mot d'ordre est « liberté », déclare Pascal Mouindo, secrétaire exécutif du CEFOSA. Déjà, les veuves ont commencé à vendre les produits de leur travail. Ce sont des nattes, des corbeilles, du savon, etc. Grâce à l'appui financier de l'ONG allemande LWF, les formateurs passent d'atelier en atelier pour encadrer les apprentis. Cet apprentissage comprend également les volets agricoles, médical et juridiques. Les veuves et orphelins sont formés sur les méthodes agricoles, la lutte contre le VIH-Sida, l'hygiène corporelle et les droits de succession. Selon M. Jules Cambalé, encadreur à menuiserie, les élèves ont soif d'apprendre et de rachérir leurs soucis et l'obtention des matériels de travail individuels à la fin de la formation. Étienne Mouindo, Boutembo, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent à Kasongo Maniema, où malgré la reprise du trafic ferroviaire Kindu-Lubumbashi il y a bientôt un an, l'impact économique de cette réouverture n'est pas encore ressenti par les habitants de cette petite ville du Maniema. Au lieu de baisser le prix de produits de base, le sel par exemple continue de monter. Le train étant irrégulier, les commerçants s'approvisionnent par route depuis d'autres provinces. Explication de Boni Awazi, administrateur de Kasongo, au micro de Gabriel Waminia.
L'impact du passage des trains ne s'est pas encore fait sentir dans le territoire du Kasongo, bien que nous avons 4 gares dans le territoire, dont Samba, Malela, Sememanse et Lubao, comme c'était avant. Cela est dû au fait que les opérateurs économiques ne trouvent pas un compte très rapide dans le passage du train, dans la mesure où le coût au niveau du train est très élevé et surtout l'irrégularité du train, qui fait que les opérateurs économiques puissent se détourner du train pour aller à Lubumbashi ou à Bukavu. Ils trouvent que facilement ils ont leurs produits au jour voulu. Donc, tout est au niveau de la hausse en rapport avec les prix. Par exemple, pour le sel, avant l'ouverture de la voie ferrée, c'était 80 francs le verre. Et aujourd'hui, c'est 70 francs ou 75 francs le verre. Les pièces d'étoffe de waxi, avant c'était 4 500, mais aujourd'hui c'est 6 000 francs, donc il n'y a pas de changement.
Sur un total estimé de 15 000 miliciens dans l'Ituri, plus de 5 700 hommes et femmes sont désarmés dans l'ensemble de ce district. Ce sont les chiffres d'hier dimanche, mais que ce soit à Kasseni, Kwandruma, Mahagi, Nizi, Aveba, Haru et Bunia, le milicien de différents groupes armés continue à rendre les armes et autres effets militaires. À 4 jours de la date butoir, le processus de désarmement semble passer à la vitesse supérieure. C'est le cas, par exemple, à Bounia, où un nouvel afflux au point de collecte d'armes était observé ce lundi matin. D'autres précisions, c'est avec Bruy Munganga.
En l'espace des 2 heures ce lundi matin, le contingent marocain de la MONUC a enregistré une centaine de candidats au désarmement volontaire, soit autant que pour toute la journée de vendredi qui avait déjà marqué une forte hausse. Ces candidats viennent des différentes factions armées, UPCL, FNI, PUSIC et des différents quartiers de Bounia. Cependant, le gros du lot a été enregistré à Mouzipela, quartier le plus chaud de Bounia, connu comme étant le chef des miliciens de l'UPC de Thomas Lubanga. Ces miliciens ont rendu ce matin même une importante quantité de Kalachnikov, lance-roquettes, grenades et autres au point de collecte d'armes ouvert à Mouzipela. D'après les témoignages recueillis sur place, cet afflux serait le fruit de nombreux appels au désarmement lancés la semaine dernière par différents responsables de groupes armés encore présents à Bounia et de la sensibilisation quartier par quartier, porte par porte que mène depuis quelque temps le contingent marocain. D'ailleurs, pour faire face à cet afflux, la MONUC indique que d'autres points de collecte d'armes seront ouverts à Bounia en plus des 4 existants déjà avant le 1er avril. Bounia, Broy Munganga, Radio Kapi.
Du côté de Mobao Katanga, un policier et 2 militaires de forces armées de la RDC ont été libérés après 3 jours de détention. Le commandant de FRDC, Papi Uchudi, accuse les éléments armés Maïmaï d'être auteurs de cette détention. Les capitaines de FRDC indiquent que la situation sécuritaire continue à se détériorer avec la présence des éléments Maïmaï incontrôlés dans la localité de Moba. Les commandants, qui redoutent un affrontement entre les FRDC et les éléments Maïmaï, appelle les autorités militaires à trouver une solution rapide. Le point avec François-Xavier Mibé.
La libération du policier et des 2 militaires des FRDC a eu lieu ce dimanche de Pâques après leur kidnapping de 72 heures. Selon le commandant des FRDC de Moba, Papi Uchudi, les 3 militaires sont libérés grâce à l'intervention de l'administrateur du territoire de Moba, Pascal Manda. Les 3 hommes sont restés ligotés et torturés au cachot des Maïmaï pendant leur détention. Toujours selon les capitaines, l'un des militaires a reçu un coup de poignard sur la tête et est admis en urgence à l'hôpital de Moba. Le capitaine Papi Uchudi ajoute que les Maïmaï n'avancent aucun motif pour justifier leur action. Le nouveau kidnapping vient s'ajouter sur la liste des exactions auxquelles se livrent les groupes Maïmaï ces derniers temps à Moba. Pillage des biens, torture des populations civiles, ouverture de cours et tribunaux dans les villages sous leur contrôle. Le commandant déplore aussi que les Maïmaï fassent des patrouilles non autorisées dans la localité. Pour éviter la dégradation de la situation, le commandant des FRDC lance un appel pressant à la hiérarchie militaire pour obtenir un cantonnement rapide des éléments Maïmaï. Rappelons que le nouveau kidnapping vient fragiliser une situation sécuritaire au départ tendue depuis l'attaque des Maïmaï il y a 3 semaines à la résidence propre du médecin chef des zones de santé des Moba. Une situation détériorée qui a contraint même les observateurs militaires de la MONUC d'évacuer la localité des Moba. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemi.
13h09 minutes au Katanga et restons dans cette province pour vous parler de la fin ce week-end à Lubumbashi du séminaire de la formation des facilitateurs du désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants associés aux forces armées. Pendant 5 jours, les participants se sont familiarisés aux techniques devant renforcer leur capacité d'exécution et la mise en œuvre du cadre opérationnel DDR pour les enfants. La CONADER était l'organisatrice de ce séminaire qui s'est fixé pour objectif, une claire réorientation de milliers d'enfants du Katanga vers leur famille d'origine. Explication Nelly Kabena.
C'est depuis lundi dernier que les participants ont travaillé au collège Imara de Lubumbashi. Au menu du séminaire, les stratégies et mécanismes de la réinsertion, les facteurs de la mobilisation, le rôle des acteurs dans la mobilisation, les techniques participatives de formation, ainsi que la méthodologie de la formation. La CONADER est partie du constat que tous les partenaires sur le terrain n'ont pas le même programme dans la réintégration des enfants associés aux forces armées. La formation des facilitateurs vient donc répondre à ce manquement. Éloge Lusambia, formateur des facilitateurs de la CONADER. Les facilitateurs formés sont conscients de la tâche qui les attend. 5 jours de travaux ont été bénéfiques quant à leur habileté à mieux appréhender le problème lié aux enfants associés aux forces armées. Un des participants dit sa satisfaction. Reste maintenant le travail sur le terrain qui doit commencer aussitôt les moyens mis à disposition. La prochaine étape de la formation de la CONADER visera les deux Kasaï, soit Kasaï oriental et Kasaï occidental. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
La question de la sécurité des élections en Kasaï occidental était à l'ordre du jour lors de la rencontre section électorale de la MONUC, Kasaï occidental et officiers de la police nationale congolaise. Parmi les objectifs que vise la sécurité électorale figurent les édifices et matériel électoral. Le point, Julien Nyamouini.
La police nationale congolaise a un rôle essentiel à jouer pendant les échéances électorales prochaines en RDC. C'est ce qu'a affirmé Léopold Nyonke, chef des sections électorales de la MONUC au Kasaï occidental, devant les officiers de la police en formation à la MONUC. Rôle, dit-on, est essentiel dans la mesure où elle doit assurer non seulement la sécurité des édifices devant servir des bureaux des élections, mais aussi des électeurs, des préposés au centre d'inscription, ainsi que le candidat à tous les niveaux. Monsieur Léopold Nyonke a fait valoir que les forces de l'ordre doivent déterminer quels sont les moyens adéquats pour assurer la sécurité. En revanche, la commission électorale indépendante devra fournir les informations nécessaires aux forces de sécurité, notamment pour déterminer les endroits et les dates choisies pour les opérations de vote, l'administration et les dépouillements. Le chef de la section du bureau électoral a noté à l'attention de ses officiers que tous les partenaires de la CI doivent bénéficier également de la sécurité pendant toute la période électorale. Il s'agit ici des observateurs des élections et toutes les organisations qui viendront pour assurer le bon déroulement des échéances électorales. Julien Nyamouini, Kananga, Radio Okapi.
Sachez aussi qu'environ 20 000 enfants sont atteints de maladies cardiaques en République démocratique du Congo. Ce chiffre a été révélé par la chaîne de l'Espoir, une ASBL regroupant le médecin de cliniques universitaires et ceux de la clinique Ngaliema. Docteur Chomi, chargé de la mobilisation au sein de cette association, avance les hypothèses sur les causes éventuelles de ce phénomène. Il est au micro de Thérèse Bassoubi.
Beaucoup de femmes qui accouchent au Congo n'ont jamais fait des échographies pendant la grossesse et avant la naissance de l'enfant. Ils prennent des médicaments sans avoir consulté leur médecin. Parce que pendant le premier trimestre de la grossesse, les organes sont en train de se former. Tout médicament que l'on peut prendre a des effets sur la croissance de ce fœtus-là. Les causes ne sont pas encore connues actuellement. Ce n'est pas dû à l'alimentation. C'est lié au niveau de vie, la promiscuité, la pauvreté, tout ça qui fait que ces chiffres-là sont en hausse. Parce que on ne sait pas les dépister à temps pendant la grossesse. C'est un problème qui concerne les Congolais, les enfants congolais, et tout le monde doit être conscient et doit être sensibilisé pour nous aider. Avec cet argent, ça permettra de récolter, d'avoir l'équipement pour faire les dépistages, pour aller à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux, là où il y a le plus grand nombre d'enfants qui sont abandonnés, qui souffrent.
À l'étranger, la police sud-africaine a arrêté un homme et quelques enfants des rues qui détruisaient des feux de circulation pour provoquer des accidents au bénéfice d'entreprises de dépannage. Déclaration ce lundi de la sergente Katlego Mogale. Cet homme avait été arrêté en flagrant délit samedi dernier dans le quartier de Roodepoort alors qu'il était en train de débrancher des feux de circulation à un important carrefour. Le parti au pouvoir du Zimbabwe a dénoncé les fausses informations diffusées selon lui par la chaîne de télévision britannique Sky News sur l'utilisation de la nourriture à des fins électorales à l'approche du scrutin législatif de jeudi. C'est ce qui rapporte ce lundi les quotidiens d'État de Herald. La chaîne de télévision britannique a diffusé un entretien de l'un des plus virulents critiques de Mugabe, l'archevêque catholique de Bulawayo, Pius Nkube. Dans cet entretien, il affirmait que les gens qui ne soutenaient pas le gouvernement se voyaient refuser l'accès à la distribution des nourritures dans la région de Matabeleland. Okapi. 12 heures passées de 15 minutes à Kinshasa et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.